Chapitre 2. Mobilier de Madame Taleva. Lorsque la voiture déposa le frère et la sœur devant la maison paternelle, il y avait 5 heures que Maggie en était partie, et elle pensait en tremblant que peut-être sa présence avait manqué à son père et qu'il aurait en vain demandé la petite. Elle ne songeait à aucun autre changement. Elle traversa à la hâte l'allée sablée et entra dans la maison avec Tom. Mais, en entrant, elle fut frappée par une forte odeur de tabac. La porte du salon était entr'ouverte, c'est de là que venait la fumée. C'était très singulier. Quelqu'un pouvait-il, en faisant visite, fumer dans un moment comme celui-là? Sa mère y était-elle? S'il en était ainsi, il fallait lui dire que Tom était arrivé. Maggie, après cette pause de surprise, allait pousser la porte lorsque Tom la rejoignit, et ils regardèrent ensemble dans le salon. Un homme d'une apparence commune était assis dans le fauteuil de leur père, ayant devant lui une bouteille et un verre. Tom eut un vague soupçon d'avoir vu cette figure. La vérité frappa son esprit maintenant. Avoir l'huissier dans la maison et une vente forcée étaient des phrases qu'il connaissait depuis son enfance. Elles faisaient partie du déshonneur et du malheur de faillir, de perdre son argent et d'être ruiné, de retomber dans la position des prolétaires. Cela lui parut tout naturel qu'il en fût ainsi, puisque son père avait perdu son procès, et la présence de cet homme ne lui donna l'idée d'aucune autre infortune. Mais la preuve palpable de cette disgrâce était pour Tom tellement plus pénétrante que toute agitation ou crainte précédente, qu'il lui sembla en cet instant que la réalité du malheur venait seulement de commencer. C'était comme un attouchement pour un air déjà malade. « Comment vous portez-vous, monsieur ?» dit cet homme en ôtant sa pipe de sa bouche et avec une politesse rude et embarrassée. L'étonnement de ces deux jeunes visages le mettait mal à l'aise. Tom se détourna promptement sans répondre. Cette vue lui était trop désagréable. Maggie n'avait pas compris comme lui la présence de cet étranger. Elle le suivit en lui disant à voix basse « Qui peut-il être, Tom ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Puis, avec la crainte soudaine que la présence de cet étranger pût avoir quelque rapport avec la maladie de son père, elle monta à la hâte et ne s'arrêta qu'à la porte de la chambre pour ôter son chapeau avant d'entrer sur la pointe du pied. Tout y était silencieux. Son père était étendu, insensible à tout ce qui se passait autour de lui, les yeux fermés comme lorsqu'elle l'avait quitté. Il n'y avait là qu'une domestique. Sa mère était absente. « Où est ma mère ? » demanda-t-elle à voix basse. La femme ne le savait pas. Maggie sortit aussitôt en disant à Tom, « Le père est tranquille. Allons chercher ma mère. Où peut-elle être ?» Madame Taleva n'était pas en bas, ni dans aucune des chambres à coucher. Il n'y avait qu'une pièce au-dessous de la mansarde où Maggie ne l'eût pas cherchée. C'était le débarras où sa mère conservait tout son linge et toutes ses précieuses, belles choses qui n'étaient déployées et mises au jour que dans les occasions particulières. Tom, précédant Maggie comme il passait le long du corridor, ouvrit la porte de cette chambre et dit aussitôt « Mère !» Madame Taleva était assise avec tous ses trésors étalés, une des armoires à linge ouvertes, la théière d'argent débarrassée de ses nombreuses enveloppes de papier et sa plus belle porcelaine posée sur une commode, des cuillères, des fourchettes rangées en ligne sur les étagères. La pauvre femme secouait la tête et pleurait. Le regard amèrement fixé sur la marque Elizabeth Dodson, mise au coin de quelques nappes qu'elle avait sur les genoux. Elle la laissa retomber et tressaillit à la voix de Tom. « Oh, mon garçon, » dit-elle en lui jetant les bras autour du cou. « Pensez que je dusse vivre pour voir ce jour. Nous sommes ruinés, tout va être vendu. Pensez que ton père m'a épousée pour m'amener à cela. Nous n'avons plus rien, nous serons des mendiants. Il nous faudra aller à l'asile des pauvres. » Elle l'embrassa et se rassit. Puis elle prit une autre nappe sur ses genoux et la déplia un peu pour en voir le dessin, tandis que les enfants demeuraient dans une affliction muette, l'esprit rempli pour le moment des mots mendiants et asile des pauvres. « Pensez que j'ai filé cette toile moi-même, » continua-t-elle, en sortant et retournant les objets avec une agitation d'autant plus étrange et digne de pitié, que cette grande femme blonde et grasse était ordinairement si passive. Si quelque chose l'avait troublée jusqu'à ce jour, ce n'avait été qu'à la surface. Job Axey l'a tissée. il a rapporté sur son dos la pièce à la maison. Je me rappelle que j'étais debout devant la porte et que je le vis venir. Et cela avant que j'eusse jamais pensé à épouser ton père. Et j'avais choisi le dessin moi-même. Et je les ourlais si bien. Et je les marquais comme personne n'avait encore vu marquer. Ils seront obligés de couper la toile pour ôter la marque, car c'est un point particulier. Tout cela doit être vendu, pour aller dans des maisons étrangères, où on les coupera peut-être avec les couteaux, et cela sera usé avant que je sois morte. « Tu n'en auras jamais une seule, mon garçon, » dit-elle en regardant Tom, les yeux pleins de larmes, « et cependant je te l'ai destinée. Je désirais que tu eusses toutes celles de ce dessin. Maggie aurait eu le grand damier. Il ne paraît jamais si beau lorsque les plats sont dessus. » Tom fut touché au vif, mais il eut immédiatement une réaction de colère. Son visage enflammé, et il dit « Est-ce que mes tantes te laisseront vendre, mère ? Le savent-elles ? Elles ne laisseront jamais partir votre linge, n'est-ce pas ? Ne leur avez-vous rien fait dire ? Oui, je leur ai envoyé l'eau que dès que les huissiers sont arrivés. Et votre tante Poule était venue. Et oh, vraiment, vraiment, elle pleure tellement. Elle dit que votre père a déshonoré ma famille et fait jaser sur elle tout le pays. Elle achètera le linge de table moucheté pour elle-même parce qu'elle n'en a jamais eu de ce dessin autant qu'elle en désirait, et il n'ira pas à des étrangers. Mais elle a déjà tant de linge à carreaux qu'elle ne sait qu'en faire. » Ici, Madame Taleva commença à remettre son linge dans l'armoire en pliant et frappant dessus chaque objet machinalement. « Et votre oncle Gleg est aussi venu. Il dit qu'il y aura des choses à acheter pour nous afin que nous puissions nous en servir, mais qu'il faut en parler à votre tante. Et ils viendront tous pour se consulter. Mais je sais qu'aucun d'eux ne prendra ma porcelaine, ajouta-t-elle en se retournant vers les tasses et les soucoupes, parce qu'ils y ont toujours trouvé à redire quand je l'ai achetée, à cause de ces petits filets dorés qui serpentent entre les fleurs. Cependant, aucun d'eux n'a de plus belle porcelaine, pas même votre tante Poulette. Et je l'ai acheté avec mon propre argent que j'avais économisé depuis l'âge de 15 ans. La théière d'argent aussi. Votre père n'en a jamais rien payé. Et pensez qu'il m'a épousé pour m'amener à cela. » Madame Taleva recommença à pleurer de plus belle et sanglota un moment son mouchoir sur ses yeux. Puis, le retirant, elle dit en manière d'intercession, pleurant encore à moitié et comme si elle était appelée à parler avant de pouvoir être maîtresse de sa voix, « Et je lui ai dit maintes fois, quoi que vous fassiez, n'allez pas en justice. Et que pouvais-je faire de plus ? J'ai dû rester là, assise, pendant que ma fortune se dissipait, et aussi ce qui aurait dû appartenir à mes enfants. Tu n'auras jamais un sou, mon garçon, mais ce n'est pas la faute de ta pauvre mère. » Elle tendit une main à Tom en le regardant piteusement de ses yeux contristés et innocents. Le pauvre garçon embrassa sa mère qui le pressa contre elle. Pour la première fois, Tom pensa à son père avec quelque idée de reproche. Son inclination naturelle à blâmer avait été jusque-là tenue en bride à son égard par une disposition à lui donner toujours raison, simplement parce qu'il était le père de Tom Taleva. Mais maintenant, par suite des plaintes de sa mère, quelque velléité de blâme contre son père se mêlait à son indignation contre Wakeham. Il se pouvait que M. Taleva eût contribué à les abaisser dans le monde et à faire parler d'eux avec dédain, mais personne ne pourrait parler longtemps ainsi de Tom Taleva. La force naturelle et la fermeté de son caractère commençaient à se montrer doublement stimulées par le ressentiment contre ses tantes et la conviction qu'il devait se conduire en homme et prendre soin de sa mère. « Ne vous tourmentez pas, ma mère, » dit-il tendrement. « Je serai bientôt en état de gagner. » Je trouverai un emploi. Dieu te protège, mon garçon, dit Madame Taleva un peu calmée. Puis, regardant tristement autour d'elle, mais je ne m'en inquiéterais pas autant si nous pouvions garder les choses qui portent mon nom. Maggie avait assisté à cette scène avec une irritation croissante. Ses reproches sous-entendus contre son père, ce père qui était là couché dans une espèce de mort vivante, détruisait toute sa pitié pour des chagrins portant sur le linge de table et la porcelaine, et sa vénération pour son père était augmentée par un ressentiment personnel de l'entente silencieuse de Tom avec sa mère pour la mettre elle-même en dehors du malheur commun. Elle était devenue presque indifférente au peu de cas que sa mère faisait habituellement d'elle. mais elle était vivement sensible à toute espèce de sanction, même tacite, que Tom pouvait y donner. La pauvre Maggie n'avait pas un dévouement pur de tout alliage. Elle exigeait beaucoup pour elle-même de ce qu'elle aimait ardemment. Elle éclata enfin d'une voix tremblante d'indignation. « Mère, comment pouvez-vous parler ainsi? Comme si vous ne teniez qu'aux objets qui portent votre nom, et point à ceux qui portent celui de mon père. Et vous inquiétez d'autre chose que de mon père lui-même. Quand il est là couché, il ne pourra peut-être plus jamais nous parler. Tom, tu devrais en dire autant. Tu ne devrais pas permettre qu'on reproche des fautes à ton père. » Maggie, presque suffoquée de chagrin et de colère, quitta la chambre et reprit sa place près du lit du malade. Son cœur se porta vers lui avec un sentiment plus intense que jamais, à la pensée que les gens le blâmeraient. Maggie détestait le blâme. Elle-même l'avait enduré toute sa vie, et il n'en était résulté pour elle que de la mauvaise humeur. Son père l'avait toujours défendu et excusé, et le souvenir chéri de sa tendresse était pour elle une force qui la rendait capable de tout supporter à cause de lui. Tom fut un peu choqué de la sortie de Maggie, leur disant à lui et à sa mère ce qu'il était convenable de faire. Elle devait être mieux apprise que d'avoir de tels airs de supériorité et de domination. Mais s'étant rendue dans la chambre de son père, ce qu'il y vit l'affecta de manière à effacer les impressions plus légères de l'heure précédente. Lorsque Maggie vit combien il était ému, elle alla vers lui et lui passa le bras autour du cou quand il s'assit près du lit, et les deux enfants oublièrent tout, si ce n'est qu'ils avaient le même père et la même douleur.